J'ai toujours été bougon. Je monte rapidement dans les tours. Ça m'a rarement rendu service, bien au contraire. Ma dispute dans le train, avec cette femme indiscrète, en est le parfait exemple. Cependant, le discours de ce moine bouddhiste me déstabilise. Je n'avais jamais pensé que c'est la manière dont on reçoit les choses, et non les choses en elles-mêmes, qui nous rend heureux ou malheureux. J'ai l'impression d'être un petit moignon recevant les enseignements d'un grand sage. Un grand sage qui sait rester humble et accessible.
Il m'est arrivé une fois d'aller dans un laboratoire scientifique en Californie qui étudiait justement les conflits.
Oui.
Et on m'a demandé, est-ce que vous feriez une situation de conflit avec deux personnes ? Une personne, un scientifique extrêmement affable, etc. Et avoir une conversation sur un sujet difficile. Et donc, ce collègue à eux, qui était professeur de physique, un prix Nobel de physique d'ailleurs, oulala, on savait qu'il était extrêmement sympathique. Donc on dit, voilà, on va vous poser une question, pourquoi est-ce qu'un occidental comme vous deviendrait moine bouddhiste? C'est pas complètement dingue de lâcher une carrière, paraît-il que vous étiez scientifique au départ. Il pourrait y avoir cause de la confrontation. Et puis après, on vous mettra dans la même situation avec quelqu'un dont on sait que c'est la personne la plus difficile du campus, mais ça, on va pas lui dire. Et on va faire une confrontation à nouveau. Donc la première personne de ce professeur, on a commencé à parler, mais une conversation extrêmement sympathique. On avait tous des électrodes partout, des capteurs pour la sudation, le pouls, etc., etc. Et tout de suite, il y avait une harmonie entre nos physiologies. C'est-à-dire qu'on a parlé, on avait des points de vue différents, mais très courtoisement. Et à la fin, il a dit, c'est dommage, on aurait bien continué la conversation. Après, donc, vient la deuxième personne, avec qui on n'a pas dit que c'était la personne la plus difficile du campus. Je dis, vous savez, on est censé faire une confrontation. « Oh, ça ne sera pas difficile avec moi, vous allez voir. » Alors, il me rentre dans le show tout de suite.
Ouais.
Et puis, moi, je lui réponds. Je lui explique ça avec le sourire. Et il mesurait la physiologie. Au départ, il était tout feu, tout flamme. Donc, la physiologie était au top de son excitation. Et puis, il s'est calmé. Et à la fin, il a dit, écoutez, je ne peux pas me discuter avec ce type-là. Il sourit tout le temps. Puis, il y a quelque chose avec lui. Je n'arrive pas à me disputer. Voilà. Donc, CQFD, il faut être deux pour se disputer.
C'est pas facile, je vais essayer. J'ai lu une fois dans un livre sur le bouddhisme que même envers les gens qui nous font du mal, il fallait éprouver de l'altruisme.
Oui, alors je vais vous expliquer comment. Quelqu'un m'a dit un jour, un grand penseur français que je ne nommerai pas, c'est complètement stupide ce type de compassion. Avoir la compassion pour les Chinois qui ont torturé les Tibétains, etc.
Oui, ben oui.
Oui, il faut comprendre. La haine, qui est l'alternative. Ce n'est pas la solution, parce que la haine, comme disait le Bouddha, quand la haine répond à la haine ne cessera jamais. Ou comme disait Gandhi, œil pour œil, dent pour dent, tout le monde sera bientôt aveugle et édenté. Donc la loi du talion, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire, d'avoir de la bienveillance pour quelqu'un qui vous fait du mal? Ça ne veut pas dire, oh, le pauvre vieux, allez, on va lui payer des vacances aux Bahamas, ça ira mieux, c'est pas grave, il a tué 5 personnes, mais finalement, c'est pas un mauvais type. Il avait des problèmes dans son enfance. L'altruisme, qu'est-ce que ça vise à faire? À essayer d'améliorer davantage de bien-être dans la société, chez la personne. La compassion, c'est de remédier à la souffrance et à ses causes. Quelqu'un qui est à une nuisance dans la société,
oui.
C'est visiblement une cause de souffrance pour les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire, voilà, si j'avais ce type devant moi, je lui fracasse le crâne, au moins il ne fera plus de mal à personne.
Oui.
Mais on peut souhaiter, ne serait-ce qu'avoir une attitude, c'est ça là, une attitude.
Oui.
Ça serait quand même bien. Que ce type-là, finalement, il change. Bachar al-Assad, s'il pouvait, puisse la haine, l'animosité, l'ignorance, l'indifférence, la cruauté, l'avidité de cette personne, si on pouvait y remédier, ça serait bien. Est-ce qu'on pourrait, dans ce pays-là, sur le long terme, avoir un système d'éducation tel que de telles personnes n'émergent pas de ce système, comme dans les pays totalitaires? Oui. Si vous voulez, c'est une démarche comme un médecin, un thérapeute qui voit un fou furieux, il le contrôle avec une camisole si nécessaire, mais après, il ne va pas lui taper dessus à coup de bâton. Il va dire, est-ce que je peux le soigner ou pas? Au pire, je le neutralise et j'essaie de le soigner. Donc, c'est l'idée de remédier au mal, parce que c'est aussi une cause de souffrance, cette personne, pour lui-même, pour les autres. Donc, si vous voulez, c'est plutôt une posture intérieure. La compassion, c'est de remédier aux causes de la souffrance, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit. C'est différent d'un jugement moral. C'est-à-dire que ça n'excuse rien, blâme existe, mais on essaie de voir de façon constructive, est-ce qu'on peut remédier à ça?
Oui, mais quand on est victime d'une personne qui nous veut du mal, comment peut-on se mettre dans une posture qui prouve de la compassion. Je donne un exemple très précis. La mère de mon fils veut exclure le père de la vie de mon fils. Je suis lié à mon fils, je suis lié à elle. Comment puis-je me défendre tout en éprouvant de la compassion pour elle ?
Oui, alors la compassion et l'altruisme, ce n'est en aucune façon de la faiblesse. On peut être droit dans ses bottes, extrêmement ferme, décidé, mais à l'intérieur, ne pas avoir de haine. Le but, c'est de trouver la solution pour la personne qui est la plus innocente, votre fils, sans pour autant faire du mal à qui ce soit, ni à vous-même, en étant lucide et avec une bienveillance dans le fond, même si vous prenez un aspect un peu sévère.
Oui.
Il y a beaucoup de façons d'être ferme dans un conflit. Mais pas lâcher par faiblesse pour que votre fils en pâtirait parce que vous ne voulez pas vous disputer. Et si ça ne marche pas, bah, allez,
si ça marche pas, justement.
On trouve aux moyens légaux, mais sans haine. L'idée, c'est que tout le long du chemin, on explore une par une les différentes possibilités en montant en grade, je dirais, d'intervention à mesure que ça ne marche pas, mais toujours avec l'idée de trouver la meilleure solution possible pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y ait moins de souffrance possible. Il y aura toujours un peu de souffrance, parce que c'est une situation difficile, mais au moins ne pas en rajouter. Et l'animosité en rajoute, forcément.
C'est sûr, oui, c'est sûr.
Hein ?
Vous confirmez qu'il faut rester ferme, ne pas se laisser faire.
Moi, je sais, j'ai eu l'occasion de conseiller le Dalai Lama, il me dit la non-violence, ce n'est pas du tout d'être comme un paillasson. On peut être extrêmement ferme, mais sans animosité.
D'accord.
C'est ça l'essentiel.
On vous agresse dans la rue, vous faites
Attendez, si c'est physique, j'essaie quand même de me protéger.
D'accord.
Je ne joue pas en courant, je cours, mais comme je ne cours pas très vite... si vous voulez, en tout cas, ce que je ne vais pas faire, c'est sortir un pistolet et descendre le mec, quoi.
Oui. Hein? Ben oui.
Et tellement, on lui a dit, d'ailleurs. Moi, j'étais présent. Oui, mais s'il y a quelqu'un rentre avec un pistolet qui veut descendre tout le monde et que vous en avez un, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez le laisser faire par non-violence ? Alors, il a réfléchi un peu. Il a dit, écoutez, je tirerai dans les jambes. Et puis, quand il tombe par terre, je viendrai et je lui caresserai la tête.
C'est ça à quoi j'ai pensé. C'est marrant.
Depuis le jour de notre naissance jusqu'au jour de notre mort, on a besoin des autres, on a besoin de bienveillance, d'en recevoir et d'en donner. Un nouveau-né ne survivrait pas et une personne âgée non plus.
Alors justement, la compassion, la bienveillance, l'altruisme, les bisounours.
Ouais, ouais.
On vous a fait le coup aussi.
Oui, bien sûr, mais c'est facile.
Mon patron, il subit une pression parce qu'il faut toujours faire plus de chiffres. Et cette pression, il l'a fait descendre sur nous, les employés. Un jour, je vais le voir et je lui ai dit, tu sais, ça serait pas mal quand même que tu fasses preuve d'un peu de bienveillance envers nous parce qu'il y a des gens qui prennent des arrêts maladie parce qu'ils ne veulent plus venir travailler. Et il me regarde et il me dit, mais la bienveillance, mais tu te crois vraiment au pays des bisounours, là
Ouais, justement, c'est le mauvais pari. Nombreuses études ont montré qu'une entreprise où il fait bon travailler, systématiquement, est plus florissante. Ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes faire fortune, hein, mais ça ne marche plus. En gros, statistiquement, c'est clair. Qu'est-ce qui fait qu'il fait bon travailler quelque part ? Ce n'est pas simplement le salaire, ce n'est pas simplement le prestige de la boîte. C'est très simple, la qualité des relations humaines. Et qu'est-ce qui fait la qualité des relations humaines ? C'est la confiance, c'est la coopération, c'est l'ouverture, c'est pas qu'il y ait trop de verticalité absolument infranchissable. C'est que les gens ont de la marge de manœuvre. Le burn-out dans le milieu du travail, c'est d'être coincé dans une situation où notre créativité ne peut pas s'exprimer. On a un très faible marge de manœuvre qu'on sait entre un supérieur et des gens qui dépendent de nous. Donc à la fin, ça ne marche pas et on se blâme soi-même et donc il y a une sorte de burn-out. Il faut davantage donc, d'ouverture. Par exemple, en États-Unis, ils donnent des bonus tout le temps.
Oui.
Et l'idée, c'est, par exemple, c'est on donne un bonus collectif. Vous avez bien travaillé. Non, il y en a qui ont travaillé plus un peu moins que d'autres, qui sont plus capables, mais ils ont tous fait ensemble. Donc, ils se sont valorisés en tant qu'équipe. Mm-hmm. Moi, j'ai connu un grand patron qui m'a dit un jour, moi, ma priorité, c'est que les gens se sentent bien dans ma boîte.
C'est qui ? C'est qui, ce grand patron ?
Ah !
Des noms !
C'est il y a longtemps. Non, ben, je ne veux pas si je cite son nom. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il disait, et de fait, depuis que j'ai cette attitude-là, ça marche beaucoup mieux. C'est normal. Les gens sont plus contents. Non, mais ça, en tout cas, ce qui est vraiment tout à fait vérifié, c'est qu'un lieu où il fait bon travailler, ça fonctionne mieux et que le facteur principal, c'est la qualité des relations humaines. Ça, c'est très important.
Mais c'est
et la qualité des relations humaines, c'est lié à la bienveillance. C'est pas lié à encore une fois, à des avantages en nature.
Quand... Bien sûr, mais c'est simple à comprendre. Pourquoi ben c'est oui. pas appliqué?
Parce qu'ils s'imaginent qu'en serrant la vis davantage, en faisant produire plus, en sortant des heures de travail sans trop les payer, en exigeant plus des gens. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait travaillé dans une grande boîte d'informatique aux États-Unis, là, chez Microsoft. Il disait, si on recevait un email à 11h30 du soir le samedi, il s'attendait à ce qu'on réponde. On ne peut pas s'épanouir dans un système comme ça.
Maintenant qu'il le dit, ça me paraît évident. J'ai choisi l'entreprise dans laquelle je travaille uniquement en fonction du salaire, pensant avoir l'esprit tranquille. En fin de compte, c'est l'inverse. Le manque total de vie et d'épanouissement auquel sont confrontés les salariés me tue à petit feu, sans que je m'en rende compte. Mais que faire? Le manque d'argent nous plombe notre santé mentale, mais le manque d'épanouissement aussi. Je n'ai pour l'instant pas de réponse à ma question. Mais ma mise au vert forcée par mon médecin n'est pas terminée. La réponse viendra par elle-même. Je commence à lâcher prise et faire confiance à la vie.